France Culture.
Réplique de l'école avec Gabriel Attal et François Dubet. Un jour où il était reçu par François Mitterrand à l'Élysée, Jacques Julliard tâcha de lui dire l'urgence en matière scolaire de certaines réformes. Le président l'interrompit. « Vous n'avez rien de plus intéressant à me raconter ? Je ne crois pas pour ma part qu'il y ait quelque chose de plus intéressant, de plus important, de plus angoissant que la question de la transmission. » Malgré les résultats mirobolants du bac, l'école française est en crise. Orthographe, mathématiques, culture générale, on ne peut plus dire que le niveau monte, il baisse dangereusement. Tout le monde s'accorde sur le diagnostic, c'est sur les causes du phénomène et sur les remèdes à lui apporter que la querelle surgit et que les avis divergent. Pour mieux saisir la nature et les enjeux de cette divergence, j'ai invité Gabriel Attal, qui avant d'entrer à Matignon, a été ministre de l'Éducation nationale, et le sociologue François Dubet, qui signe avec Najat Vallaud-Belkacem, elle-même ancienne ministre de l'Éducation, un essai intitulé « Le ghetto scolaire ». Commençons par vous, Gabriel Attal. Lors de votre passage rue de Grenelle, vous avez proposé un choc des savoirs, la restauration de l'autorité et la mise en place de groupes de niveau au collège. Quel était le sens de ces mesures et ont-elles été suivies d'effet, Gabriel Attal?
Ces mesures, elles ont été annoncées et mises en place pour répondre au constat que vous avez évoqué dans cette introduction, c'est-à-dire une diminution continue du niveau depuis maintenant plusieurs années, si ce n'est plusieurs décennies, et puis une forme de doute français autour de l'école, alors même qu'elle est l'assurance-vie de la République, qu'elle a pour visée de former des républicains, et la conviction chez malheureusement beaucoup de familles que l'école n'élève plus, au sens où elle n'élève plus le niveau des élèves. Et moi je crois que pour répondre à la fois à ce constat et pour répondre à ce doute, il faut repartir du sens de l'école, former des républicains, ce qui signifie concentrer évidemment notre action autour des savoirs fondamentaux, et je crois qu'on est très nombreux à se retrouver autour de cet objectif, assumer effectivement un certain nombre de valeurs, et notamment l'autorité, pas au sens de l'autoritarisme, mais l'autorité des savoirs, et dont on voit qu'elle est essentielle dans une société où maintenant toute parole se vaut et où la science elle-même peut être contestée. Et en méthode, partir d'un mot qui est malheureusement devenu, je trouve, une forme de gros mot dans le débat public, qui est celui de l'exigence. Le choc des savoirs, c'est remettre l'exigence au cœur de l'école, assumer d'être exigeant avec nos élèves, avec nos enseignants aussi, avec un certain nombre de mesures, vous en avez évoqué certaines, les groupes de niveau en français et en mathématiques au collège, parce que la réalité, c'est que quand vous avez une trop forte hétérogénéité dans une classe, plus personne ne progresse. Vous avez des élèves qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui n'apprennent plus. Et vous avez des élèves qui comprennent très bien ce qui se passe, mais qui pourraient aller plus loin, qui s'ennuient. Et beaucoup d'enseignants m'ont dit qu'ils finissaient par faire un cours moyen, avec le sentiment que plus personne ne progresse. Dans ce choc des savoirs, il y a aussi le retour du redoublement, qui a été, depuis plusieurs années maintenant, confié aux familles au lieu des enseignants, ce qui est à la fois un enjeu pédagogique, mais aussi un enjeu pour l'autorité que vous évoquiez. Puisque si l'enseignant recommande le redoublement d'un élève, mais que le dernier mot est confié aux familles, où est l'autorité pédagogique de l'enseignant? Malheureusement, elle disparaît. Et puis d'autres mesures sur les programmes eux-mêmes, avec l'arrivée de la méthode de Singapour pour les mathématiques, le retour de repères annuels dans les programmes scolaires, à la place de ce qui avait été l'orientation qui avait été prise il y a plusieurs années de cycles, dont beaucoup d'enseignants eux-mêmes à l'école primaire me disaient qu'ils conduisaient à reporter les problèmes d'une année sur
l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, les cycles?
Ça veut dire que les attendus que vous avez pour des élèves en matière d'apprentissage ne sont plus définis annuellement,
ah, d'accord,
mais sur une période de 3 ans, et donc on peut finalement accepter qu'un élève, à la fin d'une année, n'atteigne pas les attendus en matière pédagogique et d'apprentissage, et on considère qu'il pourra les atteindre dans les années suivantes. C'est une forme d'allègement d'une rigueur qui me semble pour autant nécessaire. Des mesures aussi, je crois qu'elles constituent plutôt un accompagnement des enseignants et des familles avec la labellisation de manuels scolaires, parce qu'on sait que maintenant, la science nous permet de savoir quelles sont les bonnes méthodes pédagogiques, et donc labelliser les manuels scolaires pour que les collectivités locales qui les achètent, pour que les enseignants qui les utilisent, pour que les parents qui s'y réfèrent puissent savoir quelles sont les bonnes méthodes.
Mais tout ça, donc, a été installé avec vous ou est-ce que ça a été récusé, démonté, déconstruit, comme on dit, par celles ou ceux qui vont succéder?
Non, tout ça a bien, bel et bien été lancé.
D'accord.
Le retour du dernier mot sur le redoublement aux enseignants plutôt qu'aux familles, c'est fait. La mise en place des groupes de niveau en 6e et en 5e en français et en mathématiques, c'est lancé. La rénovation des programmes, le retour des attendus annuels, c'est fait. Il y a certaines mesures qui devaient s'appliquer un peu plus tard parce qu'elles nécessitent une mise en œuvre, qui ont été remises en cause, notamment par l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Je pense notamment à la réforme du brevet que j'avais décidée.
Oui, d'ailleurs, elle a dit qu'il n'est plus nécessaire d'avoir le brevet pour entrer en seconde.
Oui.
C'est une décision d'Elisabeth Borne, ça.
Oui. Alors qu'elle avait
ça
été,
va à l'encontre de vos propositions, des mesures que vous aviez prises.
Il y a 4 ministres de l'Éducation nationale qui m'ont succédé après mon départ. Sur ces 4 ministres de l'Éducation nationale, 3 d'entre elles, jusqu'à Anne Genetet avec Michel Barnier, Premier ministre, ont maintenu cette décision que j'avais prise de dire qu'un examen qui a du sens, c'est un examen qui a des conséquences. Et que si on peut passer au lycée, rentrer au lycée sans avoir son brevet, quel sens ça a de faire passer un brevet aux élèves ? Et effectivement, Elisabeth Borne a fait le choix de revenir sur cette décision, ce que je déplore et ce que je ne comprends pas, ou je le comprends peu.
Alors, le comprenez-vous, François Dubet, et plus largement, que pensez-vous de ce choc des savoirs, de cette restauration de l'autorité, cette mise en place des groupes de niveau ? François Dubet, pardon.
Je pense que depuis la création du collège unique en 1975, etc., on est dans des cycles qui ne cesse de se répéter, parce que le collège unique a été défini comme l'école de tous, donc le prolongement de l'école élémentaire définie par ce qu'on attend de tout citoyen, et en même temps le premier cycle du lycée, excusez-moi de parler comme ça, bourgeois. Donc on a mis les enseignants et les élèves dans une situation totalement intenable, et qui est toujours intenable aujourd'hui, c'est-à-dire que les ambitions sont celles du lycée, et le public c'est celui de tout le monde. Donc l'hétérogénéité des classes, c'est pas nouveau. Nous étions les champions du monde du redoublement. Je rappelle qu'il y a 15 ans en France, un élève sur 3 avait redoublé en 3e et un élève sur 2 avait redoublé au bac. Et que les enquêtes internationales montraient qu'on était toujours aussi mauvais, pardonnez-moi de le dire. Alors, peut-être on allait trop loin en disant on abolit tout redoublement, mais le redoublement était devenu une sorte de pratique routinière qui n'avait pas d'effet pédagogique. Et je crois que au fond, on n'a jamais vraiment choisi. Est-ce que le collège, puisqu'on parle du collège, c'est l'héritier de l'école républicaine qui dit voilà ce que tout citoyen, y compris le plus faible, doit savoir pour être citoyen normal, ou est-ce que c'est la propédeutique du lycée qui est lui-même sélectif, etc., etc. Et on ne choisit pas. Et vous êtes victime, au fond, de ces... Vous, je dis vous, les ministres, vous êtes victime de ces situations. On avait mis en place, il y a une vingtaine d'années, le socle qui a disparu, noyé sous les programmes. Najat Vallaud-Belkacem avait voulu réduire le phénomène des classes de niveau avec les langues rares, etc. Bon, ça a été refusé. Les enseignants viennent quand même de rejeter assez massivement les groupes de niveau. Ce qui est un changement d'ailleurs dans le monde enseignant, puisqu'ils étaient plutôt favorables aux groupes de niveau. Et je crois que ce dont nous souffrons, moi je ne vais pas critiquer vos mesures, etc., mais ce dont nous souffrons, c'est qu'on n'a pas véritablement de choix sur le collège. On n'a jamais choisi. Est-ce que le collège, c'est à la manière, finlandaise, l'école de tous, ou est-ce que c'est le premier cycle de la sélection, et dans ce cas, arrêtons de parler de collège unique. Et il faudra bien choisir, parce que c'est intenable, pardonnez-moi, pour les enseignants, et c'est intenable pour les élèves qui ont un sentiment de tri continu, d'échec permanent. comme le niveau ne s'améliore pas, on ne peut pas continuer éternellement et on n'a pas de débat là-dessus.
Alors, simplement, il semblerait que les groupes de niveau se soient imposés pour des raisons que Laurent Jaffraud et Jean-Baptiste Rosy expliquent très bien dans le livre « L'école désœuvrée ». On accueille des élèves plus faibles dans des classes plus avancées, puis dans un second temps, on révise à la baisse les exigences en se réglant sur leur capacité. On révise à la baisse les exigences et les parents dont les élèves sont bons et qui ont les moyens fuient l'école publique de plus en plus. Ou bien alors, ils assurent à leurs enfants des leçons particulières pour rattraper. Donc il fallait bien faire quelque chose. Et puis, Gabriel Attal répondra, et puis aussi... qu'est-ce que ça veut dire le collège pour tous? Qu'est-ce que ça implique en termes de programme et en termes d'exigence? Gabriel Attal.
Ce qui m'avait frappé dans la dernière étude PISA, c'est moins la baisse générale du niveau à laquelle malheureusement on a été habitué ces dernières années, que le fait que nos meilleurs ont baissé, notamment en mathématiques. On a vu une dégradation du niveau ces dernières décennies, mais... on a toujours eu une forme d'élite, c'est-à-dire que nos meilleurs élèves ont toujours été plutôt meilleurs que les meilleurs des autres pays de l'OCDE. Or là, pour la première fois, on a vu donc au collège une diminution du niveau de nos meilleurs élèves, notamment en mathématiques. Ce qui a achevé de me convaincre qu'il fallait donner la possibilité à tous les élèves de progresser selon leur niveau, et c'est le sens des groupes de niveau, qui ne sont pas des classes de niveau, parce que je crois qu'une hétérogénéité est évidemment nécessaire, qu'il faut garder un groupe classe hétérogène, mais que sur certaines matières, et c'est dans ces conditions-là que les groupes de niveau ont montré leur efficacité dans les pays qui les ont mis en place, on pouvait le mettre en place. Sur le collège, moi je crois au collège unique à plusieurs conditions. D'abord, on continue à investir massivement dans l'école primaire pour que les élèves qui arrivent en sixième disposent d'un socle minimal commun. Or, on ne peut pas avoir un collège unique qui fonctionne si à l'entrée en sixième, vous avez un élève sur trois qui ne sait pas correctement lire, écrire et compter. Donc, pour que le collège unique fonctionne, il faut continuer à tout faire pour que les savoirs fondamentaux puissent être transmis à l'école primaire. C'est ce qu'on a engagé avec le dédoublement des classes dans les territoires REP et REP+. On commence à en voir les résultats et on a assisté ces toutes dernières années à un début d'amélioration, notamment en lecture, à l'entrée en sixième. Et la deuxième chose, c'est que le collège unique ne soit pas un collège uniforme, qu'on assume de donner la possibilité à des élèves de découvrir des métiers, ce qu'on a aussi engagé, ce que j'avais voulu faire quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, y compris des métiers manuels, et qu'on assume à certains élèves qui pourraient aller plus loin et plus vite de le faire. Les groupes de niveau, c'est aussi ça. Moi, j'aurais été encore plus loin si j'en avais eu les moyens à l'Éducation nationale. Exemple, sur les mathématiques, j'aurais créé une option maths expert pour des élèves qui sont bons en maths, qui aiment les maths, qui aimeraient aller plus loin. Il y en a qui le peuvent à la maison avec des parents ou des... enseignants particuliers qui peuvent les accompagner, d'autres qui ne peuvent pas pour des raisons sociales. Voilà, moi je crois qu'on devrait avoir un collège plus modulaire, ce qui n'est pas renoncer à l'ambition du collège unique et du collège pour tous, mais qui permet quand même à certains élèves de s'envoler plutôt que de les condamner à stagner.
Oui, alors vous répondrez François Dubé, mais vous me direz aussi ce que doit être pour vous un enseignement pour tous. Il faut faire ce choix, et ce choix, qu'est-ce qu'il signifie en termes de programme?
Je fais partie des gens qui n'ont pas vraiment une nostalgie de l'école républicaine, parce que je l'ai connue d'abord, donc ça rend un peu moins nostalgique.
Je l'ai connue aussi, ça m'a entraîné nostalgique.
Mais voilà, on n'a pas eu la même expérience. Ce que je veux dire, c'est que cette école avait une ambition très forte, c'est qu'elle disait, j'offre à tous les petits Français le même bagage, les mêmes capacités, même civisme, appelons ça comme on voudra, etc. Bon. Alors, ça marchait d'autant mieux que les bons, comme vous dites, allaient au petit lycée, n'avaient rien à voir avec ça. Donc, on était dans des mondes complètement séparés. Mais vous aviez une école commune qui visait des apprentissages communs partagés. Bien. Ce qui n'empêchait pas qu'il y ait des bons et des moins bons élèves. Je rappelle qu'au maximum, la moitié de ces performances, la moitié des Français, en 1950, n'obtenaient même pas le certificat d'études. Donc, ce n'était pas aussi brillant que ça. Mais... Aujourd'hui, les programmes du collège sont définis comme la propédeutique, je le répète, des programmes du lycée qui sont définis comme la propédeutique.
Mais alors, on les définit pas comme ça. Qu'est-ce que ça donnerait?
Alors, je crois qu'il faudrait que nous ayons un débat, et je pense que ce débat devrait pas être réservé au seul monde scolaire. Moi, je crois que c'est une question générale, c'est de dire qu'est-ce qu'on souhaite que sache et que sache faire tout gamin qui sort du collège, y compris le plus faible. Parce qu'une des priorités, de mon point de vue, c'est que si la France a des performances scolaires très faibles, notamment en mathématiques, c'est parce que les inégalités de performance sont bien plus considérables qu'ailleurs. Ce qui fait, je voudrais quand même le souligner, que la France est une société relativement peu inégalitaire, dans laquelle les inégalités scolaires sont plus amples que ne le sont les inégalités sociales. Et c'est quand même un paradoxe, il faudra regarder en face. Nous avons l'école la plus homogène, la plus bureaucratique, la plus universelle, la plus, a priori, la plus parfaite. Et nous avons plus d'inégalités que nos voisins qui ont des systèmes beaucoup moins vertueux, a priori. Donc, moi, je crois que la priorité, c'est de dire que doit savoir
mais
tout collégien qui sort du collège.
Mais justement, alors, on a l'impression aujourd'hui qu'on sait de moins en moins de choses élémentaires. François Bayrou, dans le Figaro, de vendredi, donnait un entretien où il disait « La mission première de l'école est-elle remplie, à savoir apprendre à lire et à lire convenablement. Ce n'est pas la même chose d'avoir un système éducatif qui garantit à chaque élève de savoir lire et écrire sans faute ou à peu près, et un système qui laisse 30% des élèves sans ces outils au moment d'entrer à l'université. » Voilà, donc ça c'est quand même un phénomène incroyable. La scolarité augmente, on va de plus en plus longtemps à l'école, à l'université, et les apprentissages fondamentaux ne sont plus acquis. Mais surtout, moi, je m'interroge, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut sacrifier au collège? Parce que François Dubet, dans un livre avec Marie Durubella, L'hypocrisie scolaire, vous n'utilisez même pas le terme de culture générale, mais celui de culture commune. Et vous dites, les professeurs, c'est pas à eux nécessairement, dans une démocratie, de définir des programmes, ça doit être décidé démocratiquement, et en fonction de ce dont les élèves ont besoin dans leur vie. Donc, faut-il marginaliser, voire sacrifier ce qu'on a longtemps appelé la culture générale dans le cadre de cet enseignement pour tous? Et je termine en citant Alain dans ses propos sur l'éducation. Admirable livre. « Ce monde ira toujours comme il va si le trésor des humanités est réservé à ceux qui en sont les plus dignes. Au contraire, si l'on se mettait à instruire les ignorants, nous verrions du nouveau. » Et il parle du trésor des humanités. Est-ce que ce trésor vaut toujours, existe toujours dans le cadre de la culture commune que vous appelez de vos voeux, François Dubet et puis Gabriel Attal?
Je vois pas de contradiction. Je veux dire que ce qui me paraît être la catastrophe scolaire française, c'est que la plupart des élèves n'ont pas le niveau qu'on attend d'eux, n'ont pas les compétences qu'on attend d'eux. Et j'ajouterai, parce que c'est un thème auquel je suis devenu très très sensible, c'est que dans un système méritocratique qui dit « vous avez tous le droit et le devoir de réussir », ceux qui ne réussissent pas finissent par se retourner contre les valeurs scolaires. C'est quand même un événement considérable qui nous affecte ces temps-ci. Il y a 40 ans, les gens qui n'avaient pas fait d'études, les ouvriers, les employés, etc., voter, j'ai envie de dire bien, voter à gauche, normalement. Aujourd'hui, ils basculent vers des votes d'extrême droite, de l'abstention, des votes de haine, en disant nous avons été humiliés par cette catégorie de gens qui nous ont exclus, qui nous ont fait des promesses que l'école n'a pas tenues, et qui en plus sont arrogants. Et vous fabriquez du trumpisme, ou autre chose dans d'autres pays. Bon, et je crois que c'est une question qu'on doit se poser. La priorité, évidemment, je souhaite qu'on ait des médailles Fields et des prix Nobel, bien sûr, même si je ne suis pas certain que le lien entre le programme de maths de 5e et les médailles Fields soit aussi évident que ça. Mais enfin, bon, je veux bien. Mais pour moi, la priorité, c'est qu'aujourd'hui, Et c'est pas seulement au collège. La plupart des gens sortent de là en disant « j'ai rien, j'ai été maltraité, on m'a fait des promesses qu'on n'a pas tenues, on vit dans des mondes sociaux à peu près complètement, de plus en plus séparés, et je crois que c'est dangereux pour la République ». Le problème, c'est pas la place de Kant ou de Molière dans les programmes. Le problème, c'est de savoir ce que l'on peut promettre et ce que l'on peut tenir comme promesse à l'égard de tous. Je dirais, après le collège, la vie reprend ses droits et on entre dans un univers de compétition, de séparation, etc. Mais un monde juste est un monde dans lequel ceux qui ont le moins ont le maximum de ce à quoi ils ont droit. Et ça n'est pas le cas de notre école.
Gabriel Attal.
Mais tout ça renvoie au débat sur la finalité et la vocation de l'école. Et moi, je crois que c'est toujours de là qu'on doit partir. Dire que l'école doit former des républicains, ce qui est ma conviction, c'est pas conceptuel ou artificiel. Ça veut dire simplement qu'on assigne comme mission à l'école de permettre à des enfants de devenir des citoyens qui ont un niveau de connaissance qui leur permet de trouver leur place dans la société, qui connaissent la règle commune et qui comprennent ce qui nous lie et ce qui fait qu'on est ensemble et qu'on respecte les mêmes règles. Et ça passe effectivement par un certain nombre de disciplines, et on en revient toujours aux savoirs fondamentaux, mais on ne peut pas connaître l'histoire de son pays si on ne sait pas lire. Donc évidemment que c'est au cœur de tout. Ça passe aussi par ce que vous appelez les humanités, enseignement moral et civique, dont on a décidé, quand j'étais ministre de l'Éducation, de doubler le volume horaire au collège. L'éducation artistique et culturelle, je pense que c'est absolument essentiel et qu'il faut la revoir pour qu'elle vise véritablement à la transmission de cette culture commune. Je crois qu'en Italie, vous n'avez pas un seul enfant qui sort du système scolaire sans avoir appris l'histoire de l'art et du patrimoine de son pays. Ce qui, quand vous voulez transmettre une culture commune, former des républicains, me semble absolument essentiel. Au Royaume-Uni, vous n'avez pas un élève qui sort du système scolaire, qui n'a pas fait du théâtre. Ce qui permet aussi de connaître une partie de son histoire, et plus encore, savoir gérer ses émotions, lire, mémoriser. Donc tout ça, je pense que ça doit être une priorité. Je l'avais engagé aussi, j'ai malheureusement pas eu le temps de le mener à son terme. Mais oui, les humanités, comme vous le dites, doivent avoir une place pour moi centrale dans l'éducation nationale. C'est l'un des éléments positifs quand même de la réforme du baccalauréat de Jean-Michel Blanquer, puisque dans le cadre des nouvelles disciplines qui sont arrivées au lycée, celle-ci est intervenue.
Oui, alors ce que vous dites m'évoque l'école d'autrefois. J'ai donc un petit moment de nostalgie. Parler du théâtre en Angleterre, la place prise par le théâtre dans l'enseignement secondaire anglais. Quand j'étais élève au lycée, tous les ans, nous étudions une pièce de Racine, une pièce de Corneille et une pièce de Molière. Tous les ans, seconde, première, même à partir de la troisième. Voilà. Et ça, évidemment, ce n'est plus de saison. Pour des raisons d'ailleurs qui tiennent à l'idée qu'on se fait de l'égalité. Car l'égalité des chances, est évidemment au cœur de la République. Mais l'idée d'égalité contemporaine, c'est de dire les élèves venus de milieux populaires ne sont pas des héritiers, puisqu'ils vivent pas au milieu des livres, ils vont pas à la Comédie Française, etc. On va donc marginaliser la culture générale pour ne plus favoriser les héritiers. Moyennant quoi, me semble-t-il, on défavorise et on déshérite tout le monde. Ce qui fait que la classe au pouvoir aujourd'hui, si arrogante dites-vous, n'est plus une classe cultivée. Il n'y aura bientôt plus d'héritiers, ni parmi les pauvres, ni parmi les riches, en France aujourd'hui, et c'est vraiment regrettable.
J'ai un peu de mal à vous suivre.
François Dubé.
J'ai un peu de mal à vous suivre.
Ah bon ?
Mais non, pour deux raisons. La première, c'est que malheureusement, la reproduction des inégalités marche formidablement bien, et ceux qui s'en sortent sont toujours les mêmes, à peu près, et ceux qui s'en sortent pas sont toujours les mêmes. Bon, ça c'est une donnée statistique de base, cruelle, élémentaire. La France ne tient pas à la promesse de l'égalité des chances, disons aussi la vérité, aucune société ne tient véritablement à la promesse d'égalité des chances, mais en revanche, on bénéficie de la cruauté de l'égalité des chances, qui fait que, je répète, les vaincus sont responsables de ce qui leur arrive.
Bon, je ferme la parenthèse. C'est ce que disait Bourdieu dans Les Héritiers.
Je ne suis pas franchement...
un disciple de Bourdieu.
Voilà.
Mais c'est ce qu'il a dit.
Mais peu importe. La seconde chose, c'est que... la nature de la culture scolaire s'est complètement transformée. Je veux dire, dès lors que vous êtes dans une société, et la France n'est pas la seule, qui dit à tout enfant, ton avenir social dépend uniquement de tes diplômes, c'est-à-dire l'emprise des diplômes détermine complètement l'avenir social de chacun. Évidemment, les choix instrumentaux dominent complètement. Je veux dire que les parents choisissent les filières les plus rentables, les établissements les plus rentables, parce qu'on ne peut pas ne pas jouer ce jeu. Et donc, vous pouvez avoir des élites qui sont au fond toujours les mêmes et qui ont un autre type de culture, parce que dans une école qui est dominée, et c'est ce que je dis n'a rien de moral, qui est dominée par l'utilitarisme, on ne peut plus jouer à l'école gratuitement, eh bien, il en résulte effectivement un déclin de la culture morale. Ça, c'est quand même la première chose. La seconde chose, évidemment, mais là, je ne sais pas si Gabriel Attal sera de mon avis, c'est que je crois que la transmission a changé. Je veux dire que l'école républicaine était un clone de l'Église catholique, dans le sens où l'enseignement catéchique des vertus républicaines était exactement l'enseignement que faisaient les curés de la religion. Bon, aujourd'hui, on a plein d'enquêtes qui font que les leçons d'instruction civique auxquelles je suis favorable, eh bien, n'impacte pas véritablement l'expérience juvénile des gamins, parce qu'on n'apprend plus comme ça. On apprend par l'expérience. Vous voulez apprendre la littérature, faites du théâtre. C'est ça. Or, en réalité, on ne fait pas de théâtre, on fait des explications de textes clonés que l'on prépare pour le bac, etc. etc. Donc, je crois qu'il y a aussi un enjeu sur le mode de transmission qui ne passe plus par...
Mais n'empêche que, quelles que soient les expérimentations, la transmission... C'est forcément vertical. Il y a quelqu'un qui sait, qui s'adresse à des gens qui ne savent pas. Si on veut en finir avec la verticalité de la transmission, c'est la transmission tout court qui risque de disparaître, me semble-t-il. Enfin, Gabriel Attal.
La réalité, c'est aussi que le monde change et la société change. Et sur ces sujets, d'éducation civique, d'enseignement moral et civique, moi, je crois que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas faire l'impasse de l'éducation aux médias et à l'information, de la capacité à décrypter l'information qui devient un enjeu démocratique. Donc probablement que les programmes et ce qu'on apprend dans ces horaires-là n'ont pas été suffisamment revus suffisamment tôt et que ça doit le faire. Et par ailleurs, moi je pense que ces valeurs républicaines ne doivent pas être limitées dans leur transmission au cours d'enseignement moral et civique. Et là on revient aussi au sens de ce que c'est qu'être enseignant et à la vocation du métier d'enseignant. Avant de se dire qu'on veut être enseignant en mathématiques, en anglais, en arts plastiques, il faut peut-être se rappeler qu'on devient enseignant, de la même manière que quand vous engagez des études pour devenir médecin, avant de savoir dans quelle spécialité médicale vous allez exercer, vous avez envie de devenir médecin.
Les instituteurs...
François Dubé.
Les instituteurs...
Professeur des ça. Écoles, dit-on aujourd'hui.
Oui. J'aime bien être archaïque.
Ça c'est un scoop.
Voilà, les professeurs des écoles, je trouve que c'est une formule longue. Les professeurs des écoles sont définis par leur métier. Les enseignants du secondaire restent définis par leur discipline.
C'est bien.
Or, c'est bien quand vous aviez 10% d'une classe d'âge qui allait au lycée et dont les élèves d'ailleurs ressemblaient étrangement aux profs tels qu'ils avaient été 15 ans plus tôt. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans ce monde. Donc, les pays d'ailleurs qui s'en sortent bien sont les pays qui forment les enseignants comme des professionnels de l'enseignement. Et pas comme des savants plus ou moins savants qui vont transmettre des disciplines. Enfin, c'est quand même fondamental.
Alors
je ne dis pas que pour enseigner la littérature, il faut être ignorant. Mais enseigner la littérature, ça n'est pas être seulement un savant en littérature. Vous preniez le cas des médecins. Les médecins font de la biologie, pas pour devenir biologiste, pour devenir médecin. Les ingénieurs font de la physique, non pas pour devenir physicien, mais pour faire des machines. Eh bien, les enseignants devraient acquérir des connaissances pour les transmettre. Or, ce qu'on voit bien, c'est que ça ne marche. Les enseignants, moi j'ai beaucoup de tendresse et de sympathie, je veux dire, ils se démènent parce que c'est intenable. Mais leur formation n'est pas celle de professionnels. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai.
Oui, mais alors justement, nous parlons des enseignants et donc de la crise du recrutement. Cette crise ne tient-elle pas aussi au fait que les disciplines sont marginalisées. Parce que quand vous choisissiez autrefois d'enseigner la littérature, j'ai une agrégation de lettres modernes, c'est parce que vous aimiez la littérature. J'ai enseigné dans un lycée technique, j'aimais la littérature, j'ai même réussi à faire des cours sur Beckett, Mercier et Camier. Je n'avais pas de problème de discipline alors, et je n'étais pas non plus requis de mettre ma discipline de côté pour devenir un véritable enseignant. Aujourd'hui, je connais des professeurs de philosophie nommés dans des banlieues autrefois tout à fait calmes, qui se rendent compte qu'ils doivent faire de l'alphabétisation ou doivent faire respecter la discipline, moyennant quoi ils se mettent en disponibilité et vont chercher leur bonheur ailleurs. Il y a de plus en plus d'agrégés aujourd'hui qui se disent, une fois ce diplôme obtenu, comment je vais faire pour fuir l'enseignement ? Et ils se précipitent vers l'édition, par exemple, voire la communication. C'est quand même très impressionnant, sans compter les élèves qui refusent l'enseignement qui leur est dispensé. C'est ce que disait déjà le rapport Aubin sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse comme 2004. Rousseau est contraire à ma religion. Madame Bovary est un livre licencieux. Et donc le rapport dit, on en vient à classer les heures comme ce qu'on mange à la cuisine. Il y a ce qui est halal et donc permis, et ce qui est haram, interdit. Et ça, les professeurs le vivent. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Aubin a aussi écrit un livre tout à fait récemment, les profs ont peur. Les profs aujourd'hui ont peur. Les profs ont peur, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être profs. Comment remédier à tous ces problèmes, Gabriel Attal ?
Vous avez listé énormément de problèmes et de difficultés dans vos propos. Moi, je pense qu'il y a d'abord un élément essentiel dans la crise de l'attractivité, comme on dit, du métier d'enseignant aujourd'hui. C'est la place de l'enseignant dans la société et la reconnaissance de la société vis-à-vis de l'enseignant. Ce qui explique d'ailleurs le fait que cette crise d'attractivité, elle n'est pas seulement en France, loin de là, elle est dans tous les pays occidentaux, y compris des pays qui rémunèrent mieux leurs enseignants. Moi, quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'échangeais beaucoup avec mes homologues. Mon homologue allemande me disait, alors même qu'il paye
deux fois plus.
Voilà, mieux les enseignants que nous. Ce n'est pas tout à fait le même statut non plus. Ils doivent passer la journée dans leur établissement sur des horaires plus importants. Et quand ils ne font pas cours, ils font d'autres choses. Mais elle me disait, il nous manquera dans les années qui viennent 25 000 enseignants. Au Québec, où je me suis rendu, il leur en manque 5 000. Aux États-Unis, certains États ont commencé à réduire la taille des programmes par difficulté à recruter. Pourquoi ? Parce que je pense que pendant très longtemps, l'enseignant dans la société, c'était avec le médecin, peut-être avec d'autres, celui qui savait et qui avait une forme de respect et de reconnaissance. Aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, où toute parole se vaut, tout le monde considère savoir parfois mieux que l'enseignant. Moi, j'ai des profs qui me disent on n'en peut plus d'avoir des parents qui viennent remettre en cause la note qu'on a mis à leurs enfants. Mais de la même manière que vous avez des médecins qui vous expliquent que des patients remettent en cause leur traitement parce qu'ils ont lu sur Doctissimo qu'il fallait faire autre chose. Donc d'abord, il y a ce sujet-là qui est probablement le plus difficile parce qu'il est lié à l'évolution de la société et ce n'est pas des décisions politiques qui permettent d'y remédier. Ensuite, il y a ce que vous avez évoqué, j'essaye d'aller vite, mais sur la question de... Enfin, des enseignants qui, au lycée, doivent enseigner la philosophie face à des élèves qui ne savent pas lire correctement ou qui ne savent pas respecter la règle, c'est sûr qu'on ne devrait pas attendre d'eux, on ne doit pas attendre d'eux qu'ils leur apprennent à lire ou à respecter la règle. Ça doit être fait plus tôt. D'où tout ce qu'on engage à l'école primaire, ce que j'ai voulu prolonger au collège, précisément pour que les enseignants au lycée ne se retrouvent pas confrontés à ces difficultés-là. Et enfin, il y a la question de la formation et de la carrière. Je pense que de réforme en réforme ces dernières années, on a construit un mode de formation des enseignants qui finit par dégoûter un certain nombre de jeunes qui voudraient devenir enseignants.
Et le mode d'affectation.
Et le mode d'affectation également. Après, pour rebondir sur ce que vous disiez, Alain Finkielkraut, je pense qu'il faut aussi qu'on assume que des enseignants peuvent ne pas rester enseignants toute leur vie. On voit aujourd'hui, vous échangez avec des jeunes, vous ne trouvez plus aucun jeune qui vous dit « je ferai le même métier toute ma vie ». Et on a l'impression que l'éducation nationale, elle est restée totalement hermétique à cette évolution profonde qui est aussi liée à l'allongement de l'espérance de vie. Et donc, vous avez des jeunes enseignants qui arrivent, on leur dit « voilà ta classe, voilà ce que tu vas faire pendant 40 ou 45 ans ». Bon, je pense qu'on doit assumer aussi une gestion des ressources humaines, c'est pas un gros mot, dans l'éducation nationale, qui est quand même le premier employeur européen, pour dire que des enseignants peuvent s'engager pendant 5, 10, 15 ans, faire autre chose ensuite, et que même le fait d'avoir été enseignant leur donnera des chances de faire des choses très intéressantes plus tard dans leur vie. Ça réglera aussi une partie du problème d'attractivité parce que vous avez des jeunes qui ne veulent plus faire la même chose toute leur vie.
Non, moi, je suis à peu près totalement d'accord, en particulier parce que ça m'avait beaucoup intéressé, le phénomène de chute symbolique. On était dans des métiers vocationnels, c'est-à-dire que l'autorité du prof venait de ce qu'il incarnait, quelque chose qui lui était supérieur. J'incarne la République, j'incarne la culture, j'incarne la nation, j'incarne la science, etc. Nous vivons dans des sociétés où c'est terminé. Plus personne n'y croit.
Et pourquoi plus personne n'y croit-il ?
Mais non, mais
j'incarne la littérature.
Non, mais mon autorité qui tenait à un principe supérieur, ça ne marche plus, y compris d'ailleurs dans la politique, y compris le
journalisme,
y compris dans le journalisme, y compris le médecin, etc. Donc, vous avez des gens qui souffrent parce que, au fond, ils avaient un engagement vocationnel et une autorité qui les dépassait et qui sont obligés maintenant, et c'est pour ça que ce métier est si difficile et qu'on a du mal à recruter, de faire le boulot eux-mêmes. Si je veux l'autorité dans ma classe, il faut que je la construise, mon autorité. Je ne peux pas dire, c'est la science qui vous parle. Les gamins disent, cause toujours. Bon, si c'est... Voilà. Non mais... Vous pouvez le regretter.
Pourtant, c'est ça.
Non, mais non, non.
Le médecin,
non, mais,
si vous voulez, il est peut-être attaqué par ces malades, mais les malades, c'est le médecin qui sait.
La question n'est pas de savoir si on le regrette ou pas. La question est d'observer que ça ne fonctionne plus nulle part. Et que donc, on est tenu de fabriquer de construire un rapport au métier, une profession de nature différente. Aujourd'hui, vous avez des élèves qui sont hétérogènes, vous avez des élèves qui sont branchés sur des informations du matin au soir, vous avez des élèves qui disent combien ça va me rapporter ce que tu m'apprends, parce que si c'est pas contrôlé, si ça sert pas pour Parcoursup, pourquoi je ferais un effort? Voilà. Donc, on peut le déplorer, et je serais prêt à le déplorer au nom de mon grand âge.
Mais ça sert à rien.
Mais ça ne sert absolument à rien, et donc il faut fabriquer un nouveau métier, fabriquer un nouveau rapport au savoir, etc.
Je ne suis pas totalement d'accord.
Gabriel Attal.
Je pense qu'on est d'accord sur le constat, ouais. Au moins. Je crois qu'on le regrette. En tout cas, moi, je le regrette. On peut chercher à y remédier. Ça doit aussi être la mission de l'école que d'apprendre très tôt le respect qui est dû à l'enseignant, pas seulement pour sa personne ou pour sa fonction, mais parce que c'est l'autorité du savoir en lui-même. Il y a celui qui sait et celui qui apprend. Et il y a une relation qui ne peut pas être une relation d'égal à égal, mais qui doit être une relation, oui, hiérarchique, j'assume le terme. Et je pense que c'est à la fois... Comment est-ce qu'on répond à ce problème-là ? Je pense à la fois en revenant sur une pente que je pense très malheureuse qu'il y a eu ces dernières années, où de réforme en réforme, on a désarmé l'enseignant de son autorité pédagogique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le redoublement, sur le brevet. Si l'enseignant ne peut plus décider si un élève doit redoubler ou pas par rapport aux familles, si les notes que donne un enseignant à un élève pour le brevet ne conditionnent pas son passage dans la classe supérieure et même ne conditionnent pas son obtention du brevet, puisque je rappelle que quand je suis arrivé à l'éducation nationale, j'ai découvert cette histoire de correctif académique où l'institution gonflait artificiellement les notes qui étaient données par les enseignants aux élèves pour garantir que le plus grand nombre possible obtienne son brevet. J'ai assumé de revenir sur cette organisation et de dire, ce qui est un peu singulier, que j'ambitionnais d'être le ministre qui obtiendrait le plus faible taux de réussite au brevet depuis 15 ans, parce que le taux de réussite se rapprocherait enfin du niveau réel de nos élèves.
Pour le bac, on pourrait dire la même chose.
Oui, et sur le brevet, ça a été le cas cet été à la suite de la décision que j'ai prise. Donc, première chose, c'est revenir sur les réformes qui ont conduit à désarmer l'enseignant de son autorité pédagogique vis-à-vis des élèves et de leur famille. Et deuxième chose, assumer une part de symbolique. Moi, ça, j'y crois beaucoup. Moi, je crois à une école où tous les élèves devraient se lever quand l'enseignant rentre dans la classe, quelle que soit la discipline, quel que soit l'enseignant. Ça se construit dès les petites classes. C'est aussi pour ça que j'ai assumé d'essayer de tester des choses nouvelles, et notamment, nouvelles, pour certaines reviennent à ce qui a été fait il y a très longtemps, mais notamment le port d'une tenue scolaire unique, ce qui permettrait de favoriser le sentiment d'appartenance à un
groupe.
Et
en plus, c'est une mesure égalitaire, puisqu'on ne jure que par l'égalité. Si on a une tenue unique, voilà.
Voilà, donc
j'ai la concurrence des marques.
J'ai lancé cette expérimentation dans plusieurs centaines d'établissements. Elle est en cours. On va attendre qu'il y ait un peu de recul. Il faut au moins 2 ans pour mesurer. Mais les premiers retours qu'on a et les premiers signaux sont assez positifs, y compris du point de vue du climat scolaire et du respect à l'enseignant.
Alors, Alain disait, encore lui, « L'école est un lieu admirable, j'aime que les bruits extérieurs n'y entrent point, j'aime ces murs nus ». Ça, évidemment, c'est fini, notamment avec le numérique à l'école. Certains y voient une solution, moi j'y vois peut-être un problème insoluble, parce que le numérique donne l'illusion, rend le savoir disponible. Mais la disponibilité, ce n'est pas l'accès à la connaissance, ce n'est pas la compréhension. Donc avec ces disponibilités, quelque chose se perd. Et je ne vois pas comment ce serait rattrapable. Mais surtout, François Dubé, vous dites dans votre livre, c'est votre sous-titre, qu'il faut en finir avec le séparatisme. Mais justement, d'où vient ce séparatisme? Résulte-t-il d'une politique de ségrégation ou émane-t-il bien plutôt des quartiers dits populaires eux-mêmes? Je cite ici Elisabeth Badinter, une seconde société tente de s'imposer insidieusement au sein de notre République, tournant le dos à celle-ci, visant explicitement le séparatisme, voire la sécession, le tout avec notre complicité active ou passive. Et, j'en aurais terminé très vite, dans Jean-Pierre Aubin, les profs ont peur, le livre commence par cette anecdote. Oui, monsieur le président, je viens de faire un cours sur Hitler et le nazisme sans parler des juifs. C'est vrai, mais comprenez-moi, je n'ai pas envie de retrouver ma voiture vandalisée comme la dernière fois. Je dois être prudent, j'ai une femme et des enfants. C'est un président de région qui rapporte ses propos parce qu'il était allé passer une journée dans un lycée. Et il avait notamment souhaité assister à un cours d'histoire. Donc il y a quand même ce phénomène-là aussi. Et là, l'autorité du professeur est mise en cause, très durement mise en cause.
C'est quand même... Pardonnez-moi, c'est que vous faites une inversion de la culpabilité. Enfin, je veux dire que...
Ah bon ?
Ben oui, aujourd'hui, on observe... Alors, parce qu'il y a des inégalités sociales, spatiales, etc., que les écarts entre les recrutements des établissements aux extrémités de la distribution gaussienne, bon, pour parler comme ça, se creusent. C'est-à-dire que les établissements chics et chers et riches sont de plus en plus chics et chers et riches, et que les établissements les plus défavorisés sont de plus en plus défavorisés. Les premiers fonctionnent plutôt, on va dire, comme des ghettos de riches. Enfin, bon, le mot ghetto ne va pas très bien. Et les seconds fonctionnent comme des mondes quasi communautaires, parce que on est tous de la même origine, du même milieu social, etc. On a des enquêtes très intéressantes. Quand vous avez dans un établissement relativement hétérogène et que vous posez la question aux enfants issus de l'immigration de la définition de leur nationalité, quand ils sont peu nombreux dans l'établissement, ils disent on est français. Et quand ils sont majoritaires dans l'établissement, ils vous disent « on est algérien, marocain, peu importe, on n'est plus français ». Alors qu'ils le sont, parce que la communauté, le ghetto, si vous voulez, a été construit du dehors. Alors ça a deux effets. Le premier, c'est évidemment que ça creuse des inégalités scolaires de manière considérable, car si vous faites concourir les bons et les moins bons dans des mondes séparés, évidemment, les écarts se creusent, ça c'est une trivialité. Et la seconde chose, c'est que vous avez aujourd'hui des jeunesses qui se construisent dans des univers qui n'ont rien à voir. La première, c'est le choix de la sélection, de la performance, etc. La seconde finit par mettre le feu au collège quand il y a des émeutes, parce que c'est pas notre collège, parce que c'est... Donc, le séparatisme qu'on est en train d'observer, il n'est pas fabriqué par le hasard, il est fabriqué parce qu'on a de la ségrégation sociale et parce qu'en plus, les stratégies rationnelles des acteurs, c'est de creuser les inégalités.
C'est à cause donc de la ségrégation sociale que certains élèves refusent l'enseignement, la philosophie des Lumières, ou bien
parce qu'ils sont
Bovary.
Parce qu'ils sont
à cause de la ségrégation sociale,
bien sûr,
des élèves antisémites dans les banlieues.
C'est des choses sur le plan sociologique qui sont considérés chez nous comme élémentaires. C'est-à-dire que vous avez le ghetto, pour parler dans ce vocabulaire qui n'est pas adapté, est construit du dehors, mais il finit par se fabriquer du dedans. Et quand vous mettez tous ces gens qui ont les mêmes problèmes, les mêmes origines, les mêmes identités ensemble, ils produisent eux-mêmes ce système. Donc on ne peut pas quand même, je veux dire, accuser les victimes de la ségrégation d'en être les auteurs. Mais il va de soi que c'est vrai. On pourrait prendre des raisonnements tout à fait inverses et parfaitement comparables dans les établissements les plus chics, les plus chers. Aujourd'hui, on observe, par exemple, que dans les 5 dernières années, le privé a gagné 5 points d'IPS. C'est-à-dire qu'on n'avait plus des habitants où il n'y a plus que les enfants blonds. Et de l'autre côté, plus que les enfants qui sont nettement moins blonds. Et on leur fait aux uns et aux autres des leçons sur la République. Je crains que ça ne soit pas très efficace.
Tous les blancs ne sont pas blonds, Gabriel Attal.
D'abord, ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas charger l'école de mots qui ne dépendent pas de l'école, en tout cas qui en dépendent peu, et notamment les problématiques territoriales. Le fait qu'il y ait des établissements où il n'y a pas ou plus de mixité sociale, c'est aussi lié à des territoires, à des quartiers où il n'y a pas de mixité sociale. Et vous pourrez faire tout ce que vous voulez en termes de cartes scolaires pour essayer de mélanger les élèves. La réalité, c'est qu'à la fin, vous aurez des parents, et y compris des parents de milieux sociaux défavorisés, qui se saigneront pour envoyer leurs enfants dans le privé, pour éviter une école publique. Pourquoi ? Précisément parce qu'ils considèrent que cette école-là n'est plus capable d'élever leurs enfants. D'où la nécessité pour moi de montrer dans toutes les écoles, y compris ces écoles de quartiers difficiles, qu'on remet de l'exigence à tous les niveaux. C'est pas un gros mot. Pour moi, c'est ce qui permet de renouer la confiance avec des familles qui aujourd'hui se détournent de l'école publique pour cette raison-là. Ensuite, vous avez abordé plusieurs sujets. Vous avez abordé la question du refus de la laïcité, de valeurs républicaines, qui est évidemment lié au développement de l'islamisme dans un certain nombre de territoires français. Je suis allé en visiter un certain nombre, ce qui nécessite quand même de rappeler que l'action à la racine, ça doit être de lutter contre ces réseaux et notamment l'organisation des frères musulmans dans un certain nombre de territoires où finalement, dans ces quartiers-là, l'école ne se bat plus à armes égales. Face à ce phénomène, parce que vous avez des associations qui ont été noyautées par cette idéologie, parce que vous avez les réseaux sociaux et qui ont aussi un impact très fort avec des tentatives d'ingérence, d'influence sur des esprits qui sont des esprits en construction. Et donc c'est avant tout à la racine de ce phénomène-là qu'on doit lutter. Et on doit assumer de faire respecter les règles à l'école de la République, ce qui m'a conduit à faire respecter la loi de 2004 en interdisant l'abaya et le camis dans nos établissements scolaires. Parce que si l'institution scolaire elle-même accepte qu'on ne respecte pas la règle commune et la loi, comment ensuite expliquer à des élèves qu'il faut la respecter dans la société ?
Je voudrais... dans les années 80, je m'intéressais beaucoup au quartier, ou à la galère des jeunes, etc. Les enseignants des collèges vivaient dans les quartiers où ils travaillaient. Les travailleurs sociaux vivaient dans les quartiers où ils travaillaient. Aujourd'hui, plus personne n'y vit. Et donc, vous avez le sentiment, je ne le justifie pas, vous avez le sentiment, quand vous êtes dans ces quartiers, que ce sont des institutions qui viennent du dehors. Et d'ailleurs, quand ça commence à chauffer, qu'il y a des émeutes, plus personne n'est capable d'appeler au silence parce que c'est le vide. Donc, je crois qu'on a un problème. Alors, l'école n'en est pas responsable. Mais quand on est dans ces niveaux de fracture sociale, ces niveaux de distance sociale, etc., évidemment... rien ne justifie d'être tolérant à l'égard d'idéologies inacceptables. Mais certainement qu'il ne faut pas oublier les mécanismes sociaux qui les engendrent automatiquement, mécaniquement. Si vous avez de la diversité sociale, tout ça se dilue considérablement.
Il y a toujours eu de la diversité sociale, des inégalités. Je pense que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un projet politique porté par des organisations fréristes et autres qui cherchent à aller contre nos valeurs, contre les valeurs de la République. Mais d'ailleurs, j'essaie toujours de regarder ce qui doit nous rendre optimistes pour l'avenir. C'est que l'école reste quand même pour ces réseaux quelque chose de dangereux. Moi, j'étais très frappé. Pourquoi est-ce que, de manière absolument dramatique et terrible, l'école a été visée par des terroristes islamistes, avec Samuel Paty et Dominique Bernard. Précisément parce que l'école de la République incarne tout ce que ces réseaux islamistes détestent. Parce que c'est l'accès au savoir. Or, évidemment que leur souhait à eux, c'est une société où on garde le plus grand nombre dans l'obscurité. Parce que c'est une école qui accueille les filles et les garçons. Or, évidemment, ils souhaitent soumettre les femmes et les laisser en dehors du savoir. J'avais rencontré un chercheur, un spécialiste des questions de radicalisation, Hugo Micheron, qui m'avait dit qu'il avait beaucoup échangé avec des djihadistes. Il s'était rendu dans des prisons pour échanger avec des djihadistes. Et il m'a dit, ce qui leur fait le plus peur, c'est l'école de la République. Ils la voient comme une forme, de leur point de vue à eux, de rouleau compresseur qui les empêche de...
Mais on pourrait au moins ne pas leur rendre service.
Mais est-ce que...
En évitant d'avoir des écoles qui fonctionnent objectivement comme des ghettos.
Oui, mais...
Je veux dire qu'il faut quand même... Vous avez raison, enfin, je veux dire, qui ne partage pas cette analyse. Mais quand vous avez dans des quartiers où il n'y a plus que des gens d'origine étrangère, où il n'y a plus que des pauvres, et où le collège est encore plus pauvre et encore plus ségrégué que ne l'est le quartier, je veux dire, vous avez un appel d'air. Quand vous interrogez les gamins, ce que j'ai un peu fait, c'est l'évidence des choses est celle-ci.
Bon, oui, mais...
Donc, on ne peut tout de même pas, ignorer ce qui est en train de se passer. Quand vous avez aujourd'hui, quand vous prenez les indices de position sociale des établissements, ils ne cessent de se creuser, de se durcir. Alors, on peut toujours dire l'école de la République. Si c'est plus la même école, c'est plus l'école de la République.
Mais si c'est plus la même France, que va-t-il se passer? Puisque Jean-Luc Mélenchon se félicite de voir émerger une nouvelle France. Quelle sera la place de l'école dans cette nouvelle France? La transmission sera-t-elle encore possible? Autant de questions que nous serons amenés à nous poser. En tout cas, je voudrais vous remercier l'un et l'autre, Gabriel Attal et François Dubet. Je rappelle, François Dubet, que vous venez de publier avec Najat Vallaud-Belkacem Le ghetto scolaire pour en finir avec le séparatisme au seuil dans la collection La République des idées. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Adrien Gaza. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre La droite et la gauche. Mes invités seront Laetitia Strauss-Bonnard et Julia Cagé. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.